Bonjour, très bon après-midi à tous. J'espère que la pause de ce déjeuner vous a permis de bien laisser sédimenter les bonnes idées, toutes les bonnes choses que nous avons entendues ce matin. Bienvenue à tous à ce colloque. Merci à nouveau à Dominique Kerouédan de savoir donner tant de mal à l'organiser et de nous avoir conviés à participer et à pouvoir discuter ensemble autour de toutes ces thématiques qui nous tiennent tant à cœur. Dans cette session qui ouvre l'après-midi de cette première journée, on va la consacrer à la gouvernance mondiale et à la diplomatie en santé. Sujet, comme vous le savez, très ancien, mais à la fois très nouveau et qui présente des problématiques nouvelles qui s'inscrivent dans des conditions toutes particulières avec le poids croissant de la santé aujourd'hui dans la politique étrangère. Nous aurons le plaisir, mis à part bien sûr, de l'honneur qui m'est donné de vous présenter cette séance de la présidée. Nous recevons aujourd'hui Deyce de Freitas Lima Ventura, une femme du sud du Brésil, mais qui habite à São Paulo et qui est à l'Université de São Paulo au Brésil, qui aura le plaisir de nous présenter ensuite la thématique sur le Brésil et la diplomatie sanitaire, les enjeux de la solidarité. Il en va de soi de dire qu'aujourd'hui, la diplomatie brésilienne est une des meilleures diplomaties reconnues dans le monde entier, et cela nous fait attendre avec impatience le commentaire de Deyce. Sa présentation sera suivie d'une présentation par Pierre-Marie Pelé de l'Organisation mondiale de la santé en Éthiopie, et qui traitera sur le dialogue politique et diplomatie internationale face à la pandémie du VIH-SIDA en Afrique, thématique tout à fait particulière, comme vous le savez, qui a lancé ou relancé une sorte de diplomatie internationale dans le domaine sanitaire. J'ai le regret de vous annoncer que notre troisième invité, Ilona Kikbush, qui est une femme extrêmement mobilisée dans les domaines de la santé internationale et de la politique étrangère en matière de santé internationale, du Graduate Institute de Genève, nous a fait savoir qu'elle ne pouvait pas participer cet après-midi. Toutefois, elle nous a fait parvenir tout le set des diapositives qu'elle nous avait préparées. Je vous assure, il y a une bonne cinquantaine d'excellents diapositives qui seront à votre disposition dans les actes de cet événement. Sans plus tarder, pour ne pas perdre ce petit temps de questions qui nous a offert Ilona par son absence, je me lance directement à introduire la thématique d'aujourd'hui, tout en faisant à la suite une présentation concrètement de cette initiative qui a été lancée en 2006 par sept ministres des Affaires étrangères, l'initiative Diplomatie et Santé. Vous savez que la relation entre la santé et la politique étrangère est vitale, complexe et contestée. Pour élaborer une politique de santé aujourd'hui, les gouvernements, les institutions internationales et les organisations non gouvernementales doivent trouver des mécanismes pour gérer les risques sanitaires dans chaque pays, mais aussi dans les rapports et relations. Ces efforts ont conduit à créer le nouveau monde de la diplomatie de la santé mondiale. Force est de constater que les États ont également inclus la santé dans leur stratégie, dans la compétition internationale pour le pouvoir et influence. Pendant la guerre froide, par exemple, les États rivaux, notamment les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine, se sont engagés dans la diplomatie de la santé, dans la coopération et de l'aide pour affirmer, stimuler et encore mieux consolider leur position géopolitique et leurs ambitions idéologiques. Par exemple, je suis sûr que vous vous rappelez que l'Union soviétique organise à Almaty en 1978 une conférence sur les soins de santé primaire très motivée par le désir, et je cite, de montrer au monde sous-développé que leur forme de socialisme pouvait accomplir ce que d'autres systèmes politiques ne pouvaient pas. Cette motivation peut être aussi constatée au cours des 10 ou 15 dernières années où la santé devient le cadre souple ou le pouvoir subtil, celui qui ne se montre pas tout à fait mais qui est pourtant là, mais pourtant très influent que les États peuvent exercer dans la poursuite de leurs intérêts nationaux. La prolifération de la montée de la santé comme question cruciale de la politique étrangère avait émergé avant le lancement de cette initiative Diplomatie et Santé, puisque les problèmes de santé apparaissent de plus en plus fréquemment associés aux questions traitées par les diplomates. Et je cite ici, par exemple, la protection de la sécurité nationale, le renforcement de la puissance économique nationale, le développement des régions et des pays stratégiques, la promotion de la dignité humaine et les droits de l'homme, parmi d'autres objectifs des intérêts des politiques étrangères. Pourtant, les questions de santé qui ont historiquement eu tendance à faire partie de la politique moins influente dans les relations internationales, car elles étaient souvent regroupées dans les programmes de développement et ceux traitant des problématiques des droits et dignité, trop souvent à l'extrémité inférieure de la hiérarchie des intérêts des États. Pourtant, des efforts visant à relier la santé et la sécurité existaient bien avant le lancement de l'initiative Diplomatie et Santé. Par exemple, vous vous rappelez bien que l'Organisation mondiale de la santé avait fait valoir que la révision du règlement sanitaire international, un processus qui avait déjà commencé en 1995, pour améliorer les réponses transfrontalières en cas de maladie grave, pourrait permettre de renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Les relations commerciales et de la santé se déroulent également à la fine pointe de la diplomatie de la santé mondiale et sont elles-mêmes emblématiques des liens entre la santé et la politique étrangère. L'Assemblée mondiale de la santé en a reconnu cette importance dans une résolution en mai 2006 sur le commerce et la santé internationale, dans laquelle l'Assemblée invita les ministres des Affaires étrangères, du commerce et de la santé à s'orienter vers une cohérence dans la formulation des politiques nationales sur le commerce et la santé. L'Assemblée a alors cherché l'OMS à collaborer avec d'autres organisations internationales pour générer et partager des preuves et évidences sur les moyens d'aligner le commerce et la santé. Ces liens de commerce avec la santé soulignent l'importance nouvelle qu'elle représente au sein de la politique étrangère, même si ce lien, en lui-même, n'est pas nouveau. Les pays, historiquement, ont traité depuis toujours cette problématique afin que les mesures de santé ne restreignent pas les commerces internationaux. Des efforts ont également été déployés pour encadrer la pandémie de VIH-SIDA comme une menace à échelle nationale et à la sécurité internationale. Les préoccupations concernant les armes biologiques et les risques élevés de terrorisme, y compris la grippe pandémique, a été perçue comme une menace récurrente à la sécurité internationale. Ce phénomène, qu'on peut appeler des sécurisations, a mis en avant les stratégies politiques derrière lesquelles l'importance de la santé dans les politiques extérieures allait bien au-delà des controverses. En effet, en reflétant la santé à la sécurité, ces controverses apparaissent comme évidentes dans la déclaration d'Oslo, même si elle utilise le concept de sécurité sanitaire mondiale, Global Health Security, textuellement dans la déclaration. Et elle propose, parce qu'elle avoue au début de la déclaration ne pas pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit, elle propose pourtant de la définir comme, et je cite, la protection contre les risques et menaces en santé publique que par la nature même ne respecte pas les frontières. Donc, nous voilà avec un cadre proposé par la déclaration d'Oslo et les groupes Initiative et Santé. Donc, ces groupes lancés à New York à l'occasion d'une réunion parallèle en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en 2006, est composé, comme vous le voyez, par les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, du Brésil, de la France, de l'Indonésie, de la Norvège, du Sénégal et de la Thaïlande. Et il est intéressant de voir que ce groupe n'a pas, en dehors de cette déclaration d'Oslo qui le lance quelque part, qui le fait constituer, qui le fait apparaître, il n'est pas un groupe formel, il n'est pas, il n'y a pas une adhésion particulière. Cette initiative informelle, donc je vous décrirai un tout petit peu son fonctionnement à la suite. Sous la constatation donc que l'état de santé global a un impact profond sur toutes les nations et est profondément interconnecté avec le commerce et l'environnement, la croissance économique, le développement social, la sécurité nationale et les droits de l'homme et la dignité. Ce sont des défis qui vont au-delà de la portée des ministères de la Santé et les représentants de l'OMS en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies pour la Santé et doivent avoir un soutien politique plus large des pays membres. L'initiative Diplomatie et Santé, lancée à New York en septembre 2006, fut une idée d'un week-end de deux ministres qui se sont rencontrés dans une belle ferme au sud de la Norvège. C'était Jonas Gahr Støre, alors ministre des Affaires étrangères pour la Norvège, et Philippe Douste-Blazy, alors ministre des Affaires étrangères de la France, auxquels se sont associés notamment le ministre des Affaires étrangères du Brésil, de la Thaïlande, de l'Indonésie, du Sénégal et de l'Afrique du Sud, et a été finalement donc formalisé par la déclaration ministérielle d'Oslo le 20 mars 2007, déclaration qui plaide pour que la santé internationale soit considérée comme une question majeure des politiques étrangères. Lorsque l'initiative avait été lancée, l'importance croissante de la santé comme une question des politiques étrangères avait généré des questions assez importantes, mais certainement pas de consensus sur sa signification et son importance. L'initiative Diplomatie et Santé et la déclaration d'Oslo, on connaît aujourd'hui les groupes Diplomatie et Santé comme les groupes d'Oslo, reflète donc la prise de conscience croissante de la politique étrangère et de la diplomatie des défis posés par la santé mondiale, défis posés particulièrement lors de la première décennie du XXIe siècle, et a déclaré, à travers cette déclaration, que la santé mondiale est une question à part entière de la diplomatie et de la politique étrangère, s'appuyant sur les questions de notre temps. Donc, ainsi, les sept ministres qui se sont réunis à ce moment se sont engagés à explorer ensemble 10 thèmes pour faire progresser la gouvernance sanitaire internationale. Ces 10 thèmes que vous pouvez retrouver dans la déclaration commencent par une préparation et la capacité, une analyse sur la préparation et capacité des États à répondre aux épidémies. La deuxième thématique porte sur le contrôle des maladies infectieuses émergentes. Troisième thématique, une question brûlante d'actualité, la problématique des ressources humaines en santé, pas seulement par la formation, mais notamment par leur pénurie, notamment dans le monde en développement. Quatrième thème, c'était la santé associée à l'impact que les phénomènes de santé pouvaient avoir pendant les conflits. Ensuite, quelle était la place de la santé et comment gérer les problématiques de santé au niveau des désastres naturels et d'autres types de crises. Bien entendu, on ne pouvait pas laisser dehors la plus forte pandémie qui avait impacté la fin du XXe siècle, le début du XXIe siècle, sur la lutte contre le VIH-SIDA. Un problème émergent qu'il fallait pas négliger, c'était la santé et l'environnement, de même que les problèmes liés entre la santé et le développement. Je vous l'ai dit plus tôt, nous ne pouvions pas ne pas mentionner les étroits liens, parfois un petit peu incestueux, entre la santé et les politiques commerciales. Et puis, bien entendu, un problème beaucoup plus global et beaucoup plus important concernant la problématique de la gouvernance et de la sécurité sanitaire mondiale. Le processus d'Oslo a gagné la prominence en grande partie en exploitant et en essayant de continuer cet élan grâce à l'action stratégique de l'initiative. Elle a agi, par exemple, en tant que catalyseur pour l'adoption des résolutions sur la santé mondiale et la politique étrangère par l'Assemblée générale des Nations unies. 4 niveaux donc dans le fonctionnement de l'initiative Diplomatie et Santé. On a un premier travail qui est une sorte de résultat tangible de l'action de ce groupe, c'est la promotion des résolutions concernant la santé mondiale et la politique étrangère. On ne peut pas la parler. Si vous cherchez les liens sur les webs diplomatie et santé pour en parler, vous ne les trouverez pas. Le mot-clé est santé mondiale et politique étrangère. Ces groupes travaillent à 3 niveaux différents. Un niveau ministériel, à un niveau des réunions des groupes d'experts et par une réunion des ambassadeurs ou des représentants permanents à Genève. Au niveau des résolutions diplomatie et santé, on peut aujourd'hui dire que cette initiative, marquée par chaque automne depuis 2008 par l'adoption d'une résolution santé et politique étrangère à l'Assemblée générale, un rapport avec les 10 sujets que nous avons vus, qui avaient été retenus par la déclaration d'Oslo. Le projet de résolution en soi est d'abord négocié entre les 10 pays, entre les 7 pays de l'initiative à Genève par les délégations en charge du suivi de l'Organisation mondiale de la santé avant d'être finalisé dans son projet initial et envoyé à New York pour une négociation ultérieure entre tous les États membres des États-Unis. Les délégués à New York n'étant pas spécialistes de la question des santé, donc force est de constater qu'ils ont bien d'autres sujets aussi à gérer à New York, et en ne reconnaissant pas forcément la légitimité des groupes restreints constitués par les 7 pays de l'initiative, a été un des sujets les plus délicats, en fait, pour la réussite des négociations. Donc, il fallait une articulation, une bonne articulation entre Genève et New York. Une des solutions trouvées, c'était la mise en œuvre, pendant la coordination française l'année dernière, d'ouvrir un dialogue sous le projet de résolution dans chacun des groupes des régionaux de l'OMS. Ainsi, ces projets de résolution qui naissaient au sein de l'initiative Diplomatie et Santé étaient ensuite partagés par les groupes afro, euro, etc. De l'OMS qui permettaient que ce projet de résolution travaille, respire, s'enrichisse ou soit éventuellement censuré. Ce travail permettait justement d'avoir un produit plus finalisé et envoyé à New York ensuite pour des négociations, un produit plus finalisé et qui améliorait beaucoup les questions des discussions directement à New York, où les blocs qui s'affrontent ne sont pas exactement les mêmes. En général, les discussions et les négociations à New York portent entre les pays développés ou les pays du G77, et ainsi de suite, donc, où il y a certains pays qui peuvent se retrouver, d'autres qui ne se retrouvent pas dans les mêmes groupes. Parmi donc, les résolutions, je tire votre attention, il y en a eu cinq jusqu'à présent qui ont été adoptées par l'Assemblée générale. La première, en 2008, définissait les objectifs de l'initiative Diplomatie et Santé. Et pour la première fois dans l'histoire, on inscrivait un point permanent à l'ordre du jour de l'Assemblée générale intitulé « Santé mondiale et politique étrangère », dans lequel, en plus, le secrétaire général demande un rapport annuel à la directrice générale de l'OMS sur la situation de la santé internationale. En 2009, la résolution portait sur les thèmes des maladies infectieuses émergentes et sur la question de la pénurie et la formation et la circulation des ressources humaines en santé. En 2010, la résolution plaidait notamment en faveur d'une gouvernance mondiale et pour la sécurité sanitaire et la question des pouvoirs être à temps et au rendez-vous à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement en matière de santé. Celle de 2011 évoquait les enjeux à l'intersection entre santé, environnement et catastrophes naturelles. Et finalement, l'année dernière, la France, à l'initiative de la France, c'était la France qui avait la coordination du groupe cette année-là, avait proposé de travailler sur la question de la couverture universelle de risque maladie, résolution qui fut adoptée à l'unanimité par les Nations Unies, ayant été, c'était une première fois, coparrainée par 90 États membres des Nations Unies en septembre 2012. Simplement un petit clin d'œil pour nos ministres aujourd'hui, qui sont ceux qui font partie de l'initiative Diplomatie et Santé, parce que c'est un groupe informel des ministres des Affaires étrangères, auquel je me suis permis de rajouter Pascal Canfin, qui était ministre délégué auprès de Laurent Fabius, mais qui a signé à la place de Laurent Fabius et qui s'est beaucoup engagé dans des réunions ministérielles au niveau de la question diplomatie et santé. Donc, au niveau ministériel, l'initiative donnait lieu à des déclarations et communiqués ministériels conjoints, tels que, par exemple, la tribune parue en décembre 2011 dans le journal médical de Lancet, un soutien à la création d'une commission académique indépendante sur la gouvernance mondiale en santé. Sur initiative de la France, une nouvelle tribune vient d'être publiée dans The Lancet à la fin de mai 2013, toute fraîche, qui a été signé par les 7 ministres du groupe, qui concerne l'agenda post-2015 en santé. À cet égard, je vous ai apporté quelques copies de cet article. L'un de mes collègues est là aussi avec une grande quantité de copies qu'on met à votre disposition. Les ministres des Affaires étrangères donc, ou de la Santé sont également amené à se rencontrer en marge de certains rendez-vous internationaux tels que le Conseil des droits de l'homme, l'Assemblée mondiale de la santé, où il est traditionnel qu'il y ait un petit déjeuner des ministres de la santé de 7 pays de l'initiative, ou encore, bien sûr, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, où il est traditionnel que l'on puisse avoir une discussion beaucoup plus approfondie sur des questions qui sont en discussion au sein du groupe. Les ministres ne peuvent pas animer de façon permanente, donc ils sont nommés des experts qui les représentent au sein du groupe. Les experts donc, de l'initiative Diplomatie et Santé sont chargés d'assurer un suivi et de faire des propositions concrètes à des actions conjointes qui peuvent être menées par le groupe. Les groupes d'experts, ainsi, se réunissent une à deux fois par an, avec en plus un contact régulier aujourd'hui grâce au web. Et chacun des sept ministres des Affaires étrangères, à sa propre initiative, a désigné un représentant qui va siéger dans ce groupe d'experts. L'expert français, traditionnellement, c'est le sous-directeur de la santé et de la sécurité alimentaire et du développement humain qui est au sein de la direction des biens publics mondiaux à la direction générale de la mondialisation au ministère des Affaires étrangères. Nous avons ensuite une réunion plus animée, plus fréquente, qui se passe cette fois-ci à Genève. Et c'est les ambassadeurs et les représentants permanents auprès de l'OMS qui se réunissent une fois par trimestre pour faire le point sur l'état d'avancement de l'initiative, travailler sur des projets de résolution. Par exemple, très récemment, sous présidence indonésienne, en 2013, à la coordination du groupe, le groupe s'est retrouvé pour une retraite de deux jours les 15 et 16 mars derniers. En conclusion, je voulais vous dire qu'il appartient aux États membres de diriger et permettre à l'OMS d'entreprendre ses fonctions normatives et d'efficacité pour faire face à la nature de plus en plus transnationale des menaces pour la santé. Pour être aussi un référentiel de confiance pour la connaissance de l'information et agir comme un animateur efficace des multiples acteurs et parties prenantes qui peuvent conduire de façon appropriée la convergence, l'innovation pour la santé dans le cadre d'un paysage diversifié de décisions efficaces. En appui à la gouvernance efficace de la santé, des meilleures preuves et les meilleures pratiques sont nécessaires sur la manière dont la politique étrangère peut amener la coordination des politiques à tous les niveaux et créer un environnement politique mondial visant à améliorer celui de la santé. Les acteurs de la politique étrangère doivent et peuvent être plus conscients des effets positifs et parfois, hélas, négatifs des options politiques et des décisions qui impacteront les questions de santé. C'est ainsi que la politique étrangère peut faire une différence pour la santé. Je vous remercie.